Paulhache de Jérôme Vuittenet, chapitre 9. Jeudi 30 septembre 2004, automobile composant. Thomas Flesque corrigea une dernière faute de frappe sur son fichier PowerPoint et prit son ordinateur portable sous le bras pour rejoindre la salle de réunion où l'attendaient déjà quelques personnes. C'était sa première présentation, ses premières propositions, son baptême du feu. Il savait que beaucoup de ses nouveaux collègues se feraient une idée définitive de ses compétences à cette occasion. Il entra dans la salle, non sans appréhension, mais fut soulagé de voir que Jean-Clément Charles n'était pas encore là. Il installa maladroitement son ordinateur et le vidéoprojecteur en nouant les câbles si bien que sa souris n'avait que quelques centimètres carrés pour se déplacer au bout de son fil. Il mit au point l'image projetée sur le mur en face de lui, vérifia une dernière fois sa présentation et fit semblant d'attendre calmement, en souriant, que tout le monde prît place autour de la table. Jean-Clément Charles arriva en même temps que Jean-Pierre Gravard, le directeur de la fabrication, avec qui il semblait tenir une discussion animée. Les autres participants, 8 au total, étaient maintenant tous assis, les yeux rivés sur le mur écran qui diffusait pourtant une image fixe sur laquelle on pouvait lire « Optimisation des processus » en dessous du logo rouge d'Automobile Composant et tout en bas, en petit, le nom de l'auteur de la présentation. Le PDG salua Thomas Flesque, qui s'était levé poliment à son arrivée, et lança un bonjour à la cantonade aux autres personnes présentes. Gravard s'assit sans dire un mot et sortit un calepin où il nota immédiatement la date et l'heure, ainsi que le nom des participants à la réunion qu'il regarda l'un après l'autre. Son regard s'arrêta plus longuement sur Thomas Flesque, dont il n'avait pas encore retenu le nom, mais il le trouva sur l'image projetée au mur avec soulagement. Il lui aurait coûté de devoir lui demander publiquement de décliner son identité. Cela ne se faisait pas. Jean-Clément lança la réunion en rappelant brièvement le contexte économique difficile et les missions du nouvel employé, puis il lui passa la parole. Flesque gardait un sourire forcé sur son visage et masqua tant qu'il le put le stress qui faisait trembloter sa voix. À l'exception du PDG qui semblait être occupé à autre chose, tout le monde fixait le mur avec une attention béate. Flesque commença sa démonstration. Bonjour et merci d'être venu. Comme vous le savez, Automobile Composant, comme tous ses concurrents directs, doit rationaliser ses dépenses et augmenter sa productivité pour faire face à la crise du secteur et éviter les délocalisations. Il y a des coûts directs qui sont faciles à évaluer, mais difficiles à maîtriser. La matière première, la masse salariale, les taxes. Mais il y a des coûts cachés, plus insidieux, qui plombent parfois nos revenus sans qu'on puisse clairement les identifier. Mon rôle ici est de mettre le doigt sur ces trous pour colmater les fuites. Il jeta un œil à son auditoire pour percevoir les réactions à cette métaphore faible qu'il avait pourtant travaillée toute la nuit. Il avait d'abord songé à « mettre le doigt sur ses problèmes », mais il ne s'agissait pas à proprement parler de problèmes, et il avait eu peur que certains se sentent froissés, qu'on découvre des problèmes dans leur quotidien sans qu'ils s'en fussent eux-mêmes aperçus. Personne ne bougea, et à vrai dire, il lui sembla à ce moment qu'il aurait pu dire n'importe quoi sans que les participants ne réagissent. Il poursuivit néanmoins. Après m'être entretenu avec certains d'entre vous, j'ai cru comprendre que vous rencontriez des difficultés avec le stockage des pièces. Nos locaux ne sont pas extensibles, et pourtant Automobile Composant diversifie ses activités depuis maintenant plusieurs années, multipliant ainsi la nécessité de stocker des pièces de plus en plus diverses et nombreuses. Dans le même temps, j'ai pu observer un certain nombre de locaux qui ne sont pas ou très peu utilisés et qui pourraient être réaffectés à d'autres usages. Je pense notamment à la salle de réunion du bâtiment B. Quelques personnes quittèrent l'écran des yeux pour regarder Flesque, interloqué. C'étaient les utilisateurs principaux de cette salle de réunion. Ils y recevaient les commerciaux de leurs fournisseurs, y tenaient des réunions d'équipe, y examinaient les problèmes qui se posaient dans l'atelier. Flesque s'attendait à cette réaction et passa à la diapositive suivante qui montrait le taux d'utilisation des deux salles de réunion de l'entreprise. Depuis un mois, j'ai fait un relevé précis de l'utilisation des deux salles de réunion. Comme vous le voyez, la salle Armand Peugeot dont je parle n'est utilisée que pendant 15% du temps, tandis que celle où nous nous trouvons en ce moment, la salle André Citroën, est utilisée 50% du temps. Sachant que les deux salles sont à moins de 40 mètres de distance et qu'elles présentent peu ou prou les mêmes caractéristiques, vous conviendrez que l'ensemble des réunions qui se tiennent dans le bâtiment B pourraient être délocalisées ici. L'image projetée affichait deux camemberts représentant l'occupation des salles pendant le mois de septembre et un troisième estimant l'occupation future de l'unique salle de réunion après réaffectation du local Armand Peugeot au stockage de pièces. Indiscutablement, il restait encore de la marge puisque la future unique salle de réunion restait disponible plus d'un tiers du temps. Quelques arguments furent évoqués, mais aucun ne put ébranler la force des chiffres projetés sur le mur. On objecta à Flesque que les plans de l'atelier étaient affichés sur les murs de la salle Armand Peugeot, que les ouvriers rechigneraient à traverser la cour pour rejoindre le bâtiment administratif pour leur réunion d'équipe, avec leurs bleus de chauffe tachés de graisse. Flesque démonta un à un tous ces arguments auxquels il s'attendait, en prenant soin de rappeler qu'on ne faisait pas d'économie sans sacrifice et que ceux qu'il proposait étaient dérisoires. Tout en parlant, il vit que Gravard prenait frénétiquement des notes en regardant les graphiques à l'écran. Il s'attendait à une remarque pertinente de sa part, mais elle ne vint jamais. Puis une autre personne objecta que la salle était également un lieu de convivialité où les employés appréciaient de prendre un café avant d'attaquer leur journée de travail. Flesque prit alors Jean-Clément Charles à témoin, en lui demandant s'il fallait tenir compte de la convivialité et du café des employés dans le cadre de ses missions de contrôle de gestion. Le PDG, qui n'avait pas participé aux échanges jusque-là et qui n'avait pas davantage laissé croire qu'il écoutait la démonstration de Flesque, trancha sans aucune hésitation. « Nous allons réaffecter cette salle en lieu de stockage. Une machine à café sera installée dans l'atelier pour permettre aux gens de discuter autour d'une boisson chaude avant le début de la journée, car cela me semble important également. » Puis il ordonna à quelques-uns des participants de s'occuper de ces changements et se leva, mettant fin immédiatement à la réunion. La présentation de Flesque n'était pas terminée, mais le contrôleur de gestion ne s'opposa pas à ce qu'on levât la séance. Cela lui permettait de garder ses autres idées pour une réunion future. Quelques personnes lancèrent un regard noir à Flesque au moment de sortir de la salle. Il s'y attendait, mais sa position dans l'entreprise l'exposait fatalement à ce genre de réaction. Il n'était jamais facile de réduire les coûts d'une entreprise et d'augmenter la compétitivité. Cela ne pouvait se faire qu'au détriment d'un certain confort et avec l'effort de chacun. Gravard passa devant lui pour sortir sans même le regarder. Flesque vit sur son calepin, en dessous des noms des participants et de la date du jour, des dessins techniques qui n'avaient strictement rien à voir avec l'objet de la réunion.